Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Bonsoir à tous, vous allez bien? J'espère que vous êtes toujours en bonne santé et que vous êtes toujours fidèles à notre émission quotidienne de la Voix de l'Indonésie en langue française. Avec moi ce soir, Yubi Suryanto, et on va être ensemble pendant une heure aujourd'hui, jeudi. Il est 3h du matin du temps à Jakarta maintenant. Ces auditeurs et auditrices, ce soir le programme commencera par le journaux, suivi de commentaires. Aujourd'hui dans l'histoire, la mise au point, et puis on vous présente le rappel de l'actualité. Et bien, on vous propose la rubrique hebdomadaire qui sera cette semaine sur le magazine culturel suivi par l'Indonésie en couleur. Nous finirons notre émission, la rubrique distraction, c'est-à-dire la couleur de la musique indonésienne. Je laisse la parole à mon ami qui va vous présenter le bulletin d'information.
La voix de l'Indonésie, les informations.
Bonsoir à tous, bienvenue dans le programme Le Journal. Nous commençons avec les titres. L'ASEAN lance un document de traitement des victimes de la traite des êtres humains. L'ambassade des États-Unis et Jakarta ont célébré la journée internationale du droit d'accès à l'information. Les États-Unis soutiennent l'ouverture d'informations publiques. L'Indonésie continue d'accroître la présence dans la région du Moyen-Orient. La transformation technologique du Japon en Indonésie est enfin. Bangkawes est prête à aider l'Australie à commémorer la tragédie de la Seconde Guerre mondiale. Voici le journal complet. L'ASEAN a lancé le document sur le traitement des victimes de la traite des personnes ou examen régional sur les lois, politiques et pratiques au sein de l'ASEAN liées à l'identification de la gestion et le traitement des victimes de la traite, notamment la femme et les enfants, mercredi le 28 septembre 2016 à Jakarta. Ce document contient une description et une évaluation en rapport avec la loi, la politique et la pratique abordant la question de la traite des personnes dans les pays de l'ASEAN. Ce document met l'accent sur l'identification, le contrôle et le traitement des victimes de la traite des êtres humains, en particulier les femmes et les enfants. Le représentant de l'Indonésie à la Commission intergouvernementale de l'ASEAN sur les droits de l'homme, AICHR, Dina Wisnu, a déclaré que le nombre de traites des êtres humains dans le monde augmente. Par conséquent, on nécessite des directives juridiques et à l'application pour les victimes de la traite des personnes dans les pays de l'ASEAN. Je pense que ce document est très important pour l'ASEAN et il sera utilisé comme référence dans la discussion des questions liées à la traite des êtres humains dans la région. Nous sommes très réceptifs à l'approche centrée sur la victime. Selon Dina Wisnu, la traite des personnes a blessé la dignité humaine. À cette fin, l'ASEAN a fait de grands progrès dans l'adoption de la Convention de l'ASEAN contre la traite des personnes, en particulier les femmes et les enfants, ou ACTIP, en 2015. Dina Wisnu encourage les pays membres de l'ASEAN à ratifier cette convention. Le document de la gestion des victimes de la traite des êtres humains est le produit de collaboration de la Commission de l'ASEAN sur la promotion et la protection des droits des femmes et des enfants, AFWC, avec le soutien du dialogue régional de l'Union européenne, l'ASEAN, de l'instrument des installations des droits de l'homme, READI, HRF et le partenariat ASEAN-États-Unis pour la bonne gouvernance, l'équité et le développement durable et de la sécurité. L'ambassade des États-Unis à Jakarta et la Commission de l'information publique KIP de DKI Jakarta ont célébré la Journée internationale du droit d'accès à l'information mercredi à Jakarta. L'événement a promu le partenariat du gouvernement ouvert, une initiative multilatérale qui vise à obtenir des engagements concrets de la part des gouvernements pour promouvoir la transparence, l'autonomisation des citoyens, lutter contre la corruption et exploiter les nouvelles technologies pour renforcer la gouvernance. Le chef adjoint de la mission de l'ambassade des États-Unis en Indonésie, Brian McFeathers, a déclaré que le gouvernement américain soutenait les efforts transparents du gouvernement et la lutte contre la corruption en Indonésie. Selon lui, un tel soutien est mis en œuvre par les agences et l'un d'entre eux est dans le secteur des marchés publics. Du point de vue des États-Unis, nous soutenons aussi le partenariat de gouvernement ouvert en Indonésie à travers l'une des entreprises, à savoir Millennium Challenge Corporation. Nous avons le Centre de recherche pour l'acquisition des biens à 42 régions de l'Indonésie. Les experts des États-Unis enseignent également aux gens comment faire l'approvisionnement d'une manière transparente. Nous soutenons ce projet et espérons qu'il continuera à augmenter. La participation du public est l'un des piliers du gouvernement démocratique. La commémoration de la Journée internationale du droit d'accès à l'information a été assistée par des experts de la Commission de l'information publique de DKI Jakarta et les représentants des États-Unis pour discuter l'ouverture de l'information et d'autres politiques gouvernementales ouvertes, participer à des institutions gouvernementales plus transparentes, efficaces et responsables. Le gouvernement américain soutient les efforts de transparence du gouvernement tant au niveau central et local. Le chef adjoint de la mission de l'ambassade des États-Unis à l'Indonésie, Brian McFeathers, en marge de la célébration de la Journée internationale du droit d'accès à l'information, mercredi à Jakarta, a déclaré que la divulgation de l'information et la transparence étaient la chose importante pour éduquer le public. Selon Brian McFeathers, grâce à l'ouverture du gouvernement, le public peut connaître le développement du gouvernement ainsi que les problèmes rencontrés par le gouvernement afin que les gens puissent contribuer au développement. Je pense qu'il est une partie importante d'un gouvernement propre. Car si les gens savent ce qui se passe dans leur gouvernement, dans leur ville, et ils peuvent mieux contrôler le problème. Le chef du Conseil de la planification du développement régional BAPEDA de DKI Jakarta, Tuti Kusumawati, a dit que le gouvernement de Jakarta est engagé à mener un gouvernement transparent et responsable à l'ouverture de l'information et des données. Selon elle, le gouvernement provincial de Jakarta a téléchargé des milliers de données sur le site officiel du gouvernement de Jakarta qui peuvent être accessibles facilement et librement. La ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno Marsudi, a déclaré que l'Indonésie continuerait à augmenter sa présence et son rôle dans la région du Moyen-Orient. C'est ce qu'a affirmé Retno Marsudi lors d'une réunion bilatérale avec le ministre des Affaires étrangères de Bahreïn, Sheikh Khalid bin Ahmed Al-Khalifa, avant de retourner à l'Indonésie après la fin d'une session du sommet de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York aux États-Unis. Comme indiqué dans un communiqué de presse reçu par Antara mercredi à Jakarta, l'une des principales choses discutées par les deux ministres des Affaires étrangères est l'amélioration de la coopération entre l'Indonésie et le Bahreïn dans le cadre du Conseil de coopération des États du Golfe. À cet égard, la ministre Retno a demandé au ministre Ahmed Al-Khalifa de participer au renforcement de la coopération entre l'Indonésie et le Conseil de coopération des États du Golfe, ainsi qu'entre l'ASEAN et le Conseil de coopération des États du Golfe. Le ministère des Affaires étrangères de Bahreïn a invité le ministre indonésien des Affaires étrangères à assister à la réunion des ministres du Conseil de la coopération des États du Golfe et au dialogue de Manama cette année. L'investissement japonais en Indonésie est sous la forme d'investissement et le transfert d'énergie dans les industries de créer des travailleurs qualifiés. Il a été dit, le président de l'association d'amitié Indonésie-Japon, Rahmat Gobel, lors de l'ouverture du séminaire sur 12e entrepreneuriat et monozukuri à Bekasi, Java West, mercredi. Selon lui, il existe des processus et des mesures qui doivent être passés pour être appelés comme une transformation technologique, à savoir un transfert d'emploi, transfert de compréhension et le transfert des technologies. À l'heure actuelle, l'investissement japonais est encore très nécessaire en Indonésie parce qu'il a donné une valeur ajoutée à l'économie nationale. Il est donc non seulement une industrie qui développe, mais aussi à renforcer les ressources humaines qui sont capables de produire des produits de qualité. Le gouvernement de région de l'ouest de Bangka, les îles de Bangka Belitung, était prêt à aider le succès de la commémoration de la tragédie de la Seconde Guerre mondiale à Muntok, Bangka Ouest, qui sera faite par le gouvernement australien occidental en février 2017. Le résident de Bangka Ouest, Farhan Ali, a déclaré mercredi à Muntok, le gouvernement australien tiendrait cette commémoration à Muntok en impliquant environ 50 familles et proches des victimes mortes sur la tragédie historique. Selon lui, Muntok, comme ville historique, a un certain nombre d'événements importants, dont l'un est le naufrage du navire appartenant à l'allié HMAS Weinerbrook transportant des infirmières et des médecins de l'Australie dans la Seconde Guerre mondiale. À cette époque, les troupes de l'armée japonaise ont attaqué les navires dans les eaux de Muntok, précisément autour de la plage de Ranji, qui a provoqué environ 21 médecins et infirmières morts sur le lieu. Serge Ritard, c'était le journal de la Voix d'Indonésie à Jakarta. Chers amis longtemps, après le journal, maintenant vous pouvez écouter le commentaire et pour le titre, la sanction sociale dans l'élimination de la corruption. Le problème de la corruption, la collusion et le népotisme ou KKN est toujours ancré dans l'interaction économique, politique et juridique de l'Indonésie. Ces maux sociaux sont encore plus chroniques parce que cela est institutionnalisé dans le comportement et le mental d'élite des organisateurs du pouvoir d'État, à la fois dans l'exécutif, judicatif et législatif. La corruption est un problème majeur car elle est le facteur principal qui empêche l'objectif du gouvernement d'améliorer la prospérité du peuple et de réduire la pauvreté. L'éradication de la corruption qui a été faite jusqu'à présent est de nature procédurale, donc il n'y a pas d'effet dissuasif. L'éradication de la corruption n'est pas seulement le responsable des élites dirigeantes du pays. De même, le droit positif et les organismes formels d'application de la loi ne peuvent pas être les seuls agents de poursuivre les corrupteurs. La sensibilisation et la participation du public peuvent devenir une forme de force qui peut prévenir et réduire les cas de corruption. Il est très logique si la sensibilisation du public est mobilisée pour lutter contre la corruption. Il y a beaucoup d'actions concrètes par le public à participer à la lutte contre la corruption, comme une campagne d'attitude de zéro tolérance envers la corruption, les sanctions sociales à l'égard de figures de fonctionnaires ou hommes d'affaires corrompus. Les sanctions sociales peuvent entraîner la destruction de caractère, l'exclusion sociale contre les personnalités corrompues et leurs familles, et la stimulation de la justice communautaire contre les corrompus dans le contexte de l'éducation politique dans la communauté. La destruction du caractère de la corruption peut se faire seulement si les médias participent également à des combats contre la corruption avec un fort soutien de la société civile à disséquer librement et responsable des affaires de corruption. La Commission d'éradication de la corruption, ou KPK, attend que les sanctions sociales à ce crime extraordinaire peu traditionnellement font les corrupteurs d'être vraiment honteux et dissuasifs. Selon la Commission, les sanctions sociales devraient être encouragées à être la peine à tous les corrupteurs condamnés. En outre, plus sévères sanctions pénales doivent également être effectuées par le suivi et restreindre les rémissions pour les corrupteurs. Espérons que la mise en œuvre des sanctions sociales et pénales plus sévères contre les corrupteurs pour faire l'éradication de la corruption en Indonésie soit plus efficace. Chers amis, c'était le commentaire pour ce soir.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Chers auditeurs, voici notre programme au quotidien. Aujourd'hui, dans l'histoire, la voix de l'Indonésie, l'édition ce soir, 29 septembre. On va commencer le 29 septembre 1911. L'Italie déclare la guerre à l'Empire ottoman. Le 29 septembre 1911 marque le début de la guerre italo-turque, également appelée la guerre de la Libye ou de Tripolitaine, puisque les deux pays se disputent cette partie de l'Empire ottoman. Ce conflit est le théâtre du premier bombardement aérien. L'Italie sort vainqueur et la guerre cesse officiellement le 18 octobre 1912 à la signature du traité de Lausanne. L'Empire ottoman renonce à la Tripolitaine, la Cyrénaïque et à la Dodécanèse. Cette guerre est un élément déclencheur de plus de la première crise balkanique qui annonce la Première Guerre mondiale. Au chancel du 29 septembre 1962, Ben Bella au pouvoir en Algérie. À la suite des accords d'Évian, 18 mars 1962, qui reconnaissent l'indépendance de l'Algérie, Ahmad Ben Bella, chef du Front de Libération Nationale, ou FLN, est élu par 159 voix contre 1, premier président du Conseil par la nouvelle Assemblée nationale algérienne. Il accédera à la présidence en 1963, mais sera renversé par le coup d'État de Houari Boumediene en 1965 et emprisonné jusqu'en 1980. On termine le 29 septembre 1970, mort de Nasser. Le président égyptien Gamal Abdel Nasser décède d'une crise cardiaque juste après avoir mis fin au conflit opposant les Palestiniens et les troupes du roi Hussein de Jordanie. Déjà affaibli par la guerre de Cisjour, Nasser n'avait eu d'autre choix que de se rapprocher de l'URSS pour reconstituer son armée. Sous la pression de ce dernier, il signa un cessez-le-feu de 3 mois avec Israël en juillet. C'est donc en Égypte un voie de pacification qui laisse à son successeur, le vice-président Anwar el-Sadat. Ses auditeurs, c'était notre aujourd'hui dans l'histoire ce soir, l'édition 29 septembre. À demain.
Radio République Indonésie, service international, la voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésie, service international, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements.
Vous êtes toujours avec nous, Radio République Indonésie, service international, La Voix d'Indonésie, sur les fréquences ondes courtes 15150, 9525 et 11785 kHz. Le programme de l'émission en français. Vous pouvez aussi écouter nos émissions via l'Internet sur www.voi.co.id. www.awr.co.id.
Mise au point sur les infos et événements quotidiens.
Bonsoir, chers amis, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici la mise au point intitulée Les exportations de l'Indonésie aux 6 pays de l'ASEAN ont augmenté 13,7%. La Chambre de commerce et d'industrie indonésienne ou KADIN a noté l'augmentation des exportations à 13,71%. Vers les 6 pays de l'ASEAN en dehors de Singapour, la Malaisie et la Thaïlande cette année. Les 6 pays sont les Philippines, Brunei Darussalam, le Vietnam, le Laos, le Myanmar et le Cambodge. Le président du comité permanent du développement des exportations de KADIN, M. Handito Yuwono, a déclaré que la mise en œuvre de la communauté économique de l'ASEAN a donné une motivation positive pour les exportateurs en Indonésie afin d'accroître ses exportations vers les pays de l'ASEAN. Tandis que les exportations vers trois pays traditionnels de marché de l'ASEAN ont diminué, à savoir Singapour, la Malaisie et la Thaïlande. Handito Yuwono a déclaré à Jakarta le 26 septembre 2016 que l'Indonésie pouvait espérer que la dépense des exportations indonésiennes vers Singapour réduirait et remplacée par les exportations vers d'autres pays de l'ASEAN. Il a dit que basé sur le fait, il est temps pour l'Indonésie de donner plus l'attention sur le marché de l'ASEAN et le voir comme une région unifiée. Cela signifie que l'ouverture des points de vente de l'Indonésie doit être intensifiée. Les exportations de biens et services devraient également être ensemble. La croissance des exportations de l'ASEAN plus augmente qui atteint 21,89% dans la période de janvier jusqu'à août 2016. Ce chiffre est plus élevé que la contribution de l'Union européenne à 11,0%, les États-Unis 12,31%, la Chine 10,06%, le Japon 10,14% et l'Inde 7,17%. L'industrie de transformation a également contribué plus de 76% ou 70,33 milliards dollars américains de l'exportation totale de l'Indonésie. Ce chiffre a augmenté au cours de la même période l'année précédente. Bien que la contribution augmente, l'industrie de la transformation ou de fabrication a chuté de 4,37%. Le volume des exportations de pétrole et de gaz indonésien a augmenté de 0,33%, lorsque la valeur des exportations a chuté 33,38%. Ainsi, la baisse des exportations de pétrole et de gaz a causé entièrement par une baisse du prix moyen à l'exportation. C'était la mise au point de la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
L'ASEAN a lancé le document sur le traitement des victimes de la traite des personnes ou examen régional sur les lois, politiques et pratiques au sein de l'ASEAN liées à l'identification de la gestion et le traitement des victimes de la traite, notamment la femme et les enfants, mercredi le 28 septembre 2016 à Jakarta. Ce document contient une description et une évaluation en rapport avec la loi, la politique et la pratique abordant la question de la traite des personnes dans les pays de l'ASEAN. Ce document met l'accent sur l'identification, le contrôle et le traitement des victimes de la traite des êtres humains, en particulier les femmes et les enfants. Le représentant de l'Indonésie à la Commission intergouvernementale de l'ASEAN sur les droits de l'homme, AICHR, Dina Wisnu, a déclaré que le nombre de traites des êtres humains dans le monde augmente. Par conséquent, on nécessite des directives juridiques et à l'application pour les victimes de la traite des personnes dans les pays de l'ASEAN. Je pense que ce document est très important pour l'ASEAN et il sera utilisé comme référence dans la discussion des questions liées à la traite des êtres humains dans la région. Nous sommes très réceptifs à l'approche centrée sur la victime. Selon Dina Wisnu, la traite des personnes a blessé la dignité humaine. À cette fin, l'ASEAN a fait de grands progrès dans l'adoption de la Convention de l'ASEAN contre la traite des personnes, en particulier les femmes et les enfants, ou HTIP, en 2015. Dina Wisnu encourage les pays membres de l'ASEAN à ratifier cette convention. Le document de la gestion des victimes de la traite des êtres humains est le produit de collaboration de la Commission de l'ASEAN sur la promotion et la protection des droits des femmes et des enfants, AFWC, avec le soutien du dialogue régional de l'Union européenne, l'ASEAN, de l'instrument des installations des droits de l'homme, READI, HRF et le partenariat ASEAN-États-Unis pour la bonne gouvernance, l'équité et le développement durable et de la sécurité. L'ambassade des États-Unis à Jakarta et la Commission de l'information publique KIP de DKI Jakarta ont célébré la Journée internationale du droit d'accès à l'information mercredi à Jakarta. L'événement a promu le partenariat du gouvernement ouvert, une initiative multilatérale qui vise à obtenir des engagements concrets de la part des gouvernements pour promouvoir la transparence, l'autonomisation des citoyens, lutter contre la corruption et exploiter les nouvelles technologies pour renforcer la gouvernance. Le chef adjoint de la mission de l'ambassade des États-Unis en Indonésie, Brian McPhitters, a déclaré que le gouvernement américain soutenait les efforts transparents du gouvernement et la lutte contre la corruption en Indonésie. Selon lui, un tel soutien est mis en œuvre par les agences et l'un d'entre eux est dans le secteur des marchés publics.
From the US point of view, we also have some support.
Du point de vue des États-Unis, nous soutenons aussi le partenariat de gouvernement ouvert en Indonésie à travers l'une des entreprises, à savoir Millennium Challenge Corporation. Nous avons le centre de recherche pour l'acquisition des biens à 42 régions de l'Indonésie. Les experts des États-Unis enseignent également aux gens comment faire l'approvisionnement d'une manière transparente. Nous soutenons ce projet et espérons qu'il continuera à augmenter. La participation du public est l'un des piliers du gouvernement démocratique. La commémoration de la Journée internationale du droit d'accès à l'information a été assistée par des experts de la Commission de l'information publique de DKI Jakarta et les représentants des États-Unis pour discuter l'ouverture de l'information et d'autres politiques gouvernementales ouvertes, participer à des institutions gouvernementales plus transparentes, efficaces et responsables. Le gouvernement américain soutient les efforts de transparence du gouvernement tant au niveau central et local. Le chef adjoint de la mission de l'ambassade des États-Unis à l'Indonésie, Brian McPhitters, en marge de la célébration de la Journée internationale du droit d'accès à l'information, mercredi à Jakarta, a déclaré que la divulgation de l'information et la transparence étaient la chose importante pour éduquer le public. Selon Brian McPhitters, grâce à l'ouverture du gouvernement, le public peut connaître le développement du gouvernement ainsi que les problèmes rencontrés par le gouvernement afin que les gens puissent contribuer au développement. Je pense qu'il est une partie importante d'un gouvernement propre. Car si les gens savent ce qui se passe dans leur gouvernement, dans leur ville, et ils peuvent mieux contrôler le problème. Le chef du Conseil de la planification du développement régional BAPEDA de DKI Jakarta, Tuti Kusumawati, a dit que le gouvernement de Jakarta est engagé à mener un gouvernement transparent et responsable à l'ouverture de l'information et des données. Selon elle, le gouvernement provincial de Jakarta a téléchargé des milliers de données sur le site officiel du gouvernement de Jakarta qui peuvent être accessibles facilement et librement. La ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno Marsudi, a déclaré que l'Indonésie continuerait à augmenter sa présence et son rôle dans la région du Moyen-Orient. C'est ce qu'a affirmé Retno Marsoudi lors d'une réunion bilatérale avec le ministre des Affaires étrangères de Bahreïn, Cheikh Khalid bin Ahmed Al-Khalifa, avant de retourner à l'Indonésie après la fin d'une session du sommet de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York aux États-Unis. Comme indiqué dans un communiqué de presse reçu par Antara mercredi à Jakarta, l'une des principales choses discutées par les deux ministres des Affaires étrangères est l'amélioration de la coopération entre l'Indonésie et le Bahreïn dans le cadre du Conseil de coopération des États du Golfe. À cet égard, la ministre Retno a demandé au ministre Ahmed Al-Khalifa de participer au renforcement de la coopération entre l'Indonésie et le Conseil de coopération des États du Golfe, ainsi qu'entre l'ASEAN et le Conseil de coopération des États du Golfe. Le ministre des Affaires étrangères de Bahreïn a invité le ministre indonésien des Affaires étrangères à assister à la réunion des ministres du Conseil de la coopération des États du Golfe et au dialogue de Manama cette année. L'investissement japonais en Indonésie est sous la forme d'investissement et le transfert agit dans les industries de créer des travailleurs qualifiés. Il a été dit, le président de l'Association d'amitié Indonésie-Japon, Rahmat Gobel, lors de l'ouverture du séminaire sur 12e entrepreneuriat et monozukuri à Bekasi, Java West, mercredi. Selon lui, il existe des processus et des mesures qui doivent être passés pour être appelés comme une transformation technologique, à savoir un transfert d'emploi, transfert de compréhension et le transfert des technologies. À l'heure actuelle, l'investissement japonais est encore très nécessaire en Indonésie parce qu'il a donné une valeur ajoutée à l'économie nationale. Il est donc non seulement une industrie qui développe, mais aussi à renforcer les ressources humaines qui sont capables de produire des produits de qualité. Le gouvernement de région de l'ouest de Bangka, les îles de Bangka Belitung, était prêt à aider le succès de la commémoration de la tragédie de la Seconde Guerre mondiale à Muntok, Bangka Ouest, qui sera faite par le gouvernement australien occidental en février 2017. Le résident de Bangka Ouest, Farhan Ali, a déclaré mercredi à Muntok, le gouvernement australien tiendrait cette commémoration à Muntok en impliquant environ 50 familles et proches des victimes mortes sur la tragédie historique. Selon lui, Muntok, comme ville historique, a un certain nombre d'événements importants, dont l'un est le naufrage du navire appartenant à l'allié HMAS Weinerbrook transportant des infirmières et des médecins de l'Australie dans la Seconde Guerre mondiale. À cette époque, les troupes de l'armée japonaise ont attaqué les navires dans les eaux de Muntok, précisément autour de la plage de Ranji, qui a provoqué environ 21 médecins et infirmières morts sur le lieu. Serge Ritard, c'était le journal de la Voix d'Indonésie à Jakarta.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Ce sont toujours des infographies qu'on vous propose à la Voix de l'Indonésie. Ces amis, vous pouvez écouter nos émissions par l'onde courte 900-200 kHz ou sur Internet à l'adresse www.voi.co.id. Et nous vous invitons également à rejoindre la VOI sur Facebook Voice of Indonesia ou à nous suivre sur Twitter @VOIIndonesia. Vous pouvez également envoyer une lettre par courrier électronique à france@voi.co.id. Passons maintenant, le magazine culturel est suivi par La Variété Indonésienne.
Écoutez des informations et les arts et cultures indonésiens dans le programme quotidien Tout de beauté en Indonésie.
Bonsoir, chers amis, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le magazine culturel. Et cette fois, nous allons vous inviter à voyager dans la région de Purbalingga. Alors, restez toujours avec nous. World Service Voice of Indonesia, de la Voix de l'Indonésie. Le village de Panusupan est l'un des villages touristiques à Purbalingga, dans la province de Java centrale. Ce village est devenu l'une des destinations touristiques préférées pour les touristes qui visitent Purbalingga. Panusupan possède une atmosphère de village étant préservée par la richesse de l'art et de la culture. Entrez dans le village, vous serez accueilli par l'air frais et des arbres verts. Ici, vous pouvez profiter des objets touristiques, y compris la maison d'arbres de souvenirs, la rivière de Watu Mujur, le pont de Cinta et le pont de Selfie. Dans l'édition de Persona Indonesia cette fois, nous recommandons l'une des attractions de Purbalingga que vous pouvez apprécier lors de la visite dans cette région. C'est la rivière de Watu Mujur. Cette rivière possède des unicités, la beauté et l'exotisme qui peuvent attirer les touristes. Cette rivière est située dans un endroit tout à fait caché, avec des rochers et des arbres de chaque côté de la rivière. Avec tant d'arbres à cet endroit, l'eau dans la rivière sont très rafraîchissante et claire, et les vallées noires brillantes étouffent également la rivière. Donc, beaucoup de touristes qui ont nommé Watu Mujur. Les activités touristiques intéressantes sur la rivière de Watu Mujur est l'activité de descendre la rivière. Avant de profiter de cette activité, vous devez payer le billet d'entrée, 7000 rupiah. Et avant de faire le descendre de la rivière, vous devez porter un bouée et le casque. Le voyage de la rivière a pris près de 3 heures, accompagné bien sûr par un guide touristique. Quand vous descendez sur la rivière, vous rencontrez beaucoup de mini-cascades qui sont l'attraction principale. Vous pouvez vous arrêter pour profiter de chaque cascade là-bas. Et n'oubliez pas d'apporter un appareil de photo. Chers amis, c'était notre programme touristique, le magazine culturel de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta, intitulé « La rivière de Watu Mujur ». Merci à tous et à bientôt.
Les couleurs, un programme sur les informations actuelles.
Chers amis, la Voix de l'Indonésie, voici le magazine de couleur indonésienne, édition de jeudi. Pour ce soir, le sujet est 12 films indonésiens au Festival du film international à Tokyo. Chers amis, le 29e Festival du film international de Tokyo, qui aura lieu le 25 octobre à 3 novembre, est plus spécial pour l'Indonésie, parce que pour cette année, le comité présente 12 films indonésiens et seront diffusés sur le Festival international à Tokyo. Les 11 films de l'Indonésie seront diffusés sur CrossCut Asia avec le focus d'un pays asiatique ayant le thème de la couleur indonésienne, qui présente les cinéastes, acteurs, actrices et réalisateur. Tandis qu'un autre sera diffusé sur le thème de futur asiatique. CrossCut catégorie Asia Film Asiatique avec un accent sur un seul pays, réalisateur, acteur ou un thème particulier. Ce qui est intéressant cette année est uniquement pour les films de l'Indonésie dans la catégorie Crosscut Asia. Chers amis, le film Attira apparaîtra dans la session asiatique avec 10 films indonésiens. Ce film dont le réalisateur est Riri Reza publie dans le théâtre du pays du 29 septembre. Outre de film Attira dans le Crosscut Asia, on montrera également le film Catatan Dodol Calon Dokter réalisé par Iva Isfarchah. Ce film mettant en vedette Adipati Dolken, Tika Baravani et Aurélie Meremans, qui sera prévu à la première en Indonésie au 27 octobre 2016. Puis, il y a aussi un film musical Kisah Tiga Dara ou L'histoire de trois jeunes filles, réalisé par Nia Dinata avec les acteurs et actrices Santi Paredes, Tara Basro, Tatiana Akman et l'actrice principale Titi Puspa. Ce film est inspiré par le film phénoménal réalisé par Usmar Ismail intitulé Tiga Dara qui a été publié en 1956. Ce film de Nia Dinata a déjà tourné au 1er septembre. Chers amis, La Voix de l'Indonésie, outre troisième plus de titres, outre ce trois films, à cette session de Crosscut Asia, le comité diffusera également Philosophie Kopi ou Philosophie de Café, qui est réalisé en 2015, réalisé par Angga Dwi Mas Sasso, Sendiri Diana Sendiri, réalisé en 2015 par Camilla Andini, Fiksi ou Fiction, le film 2013 réalisé par Muli Surya et le film Someone's Wife in the Boat and Someone's Husband ou La Femme de Quelqu'un dans le Bateau de Marie de Quelqu'un 2013 par le réalisateur Edwin tandis que Teddy Surya Atmaja avec ses trois films About a Woman 2014, Something in the Way 2013 et Lovely Man 2011. Dans ce festival, il y a aussi un ancien film de l'Indonésie qui a déjà restauré Lewat Jam Malam, publié en 1954 par Usmar Ismail, a également été élu à la région Asia Crosscut ou Crosscut Asia. Cependant, pour la session de Futur Asiatique, le film Salawaku, dirigé par Prita Gita Aryanegara, raconte la vie de deux hommes avec l'arrière-plan de l'île de Seram Omoluk. Chers amis de La Voix de l'Indonésie Menantière, c'était La Couleur Indonésienne ayant le titre 12 films indonésiens présentera au Festival du Film International à Tokyo. Merci de votre attention et fidélité. Au revoir.
Nous vous rencontrons demain avec les autres couleurs sur l'Indonésie.
Passons maintenant divertissement avec la couleur de la musique indonésienne qui va vous plaire.
Couleur du son, programme des musiques et des chansons indonésiennes.
Bonsoir, chères auditrices et chers auditeurs dans le monde entier. Rencontrons-nous dans le magazine musical un programme qui présente les musiques indonésiennes, soit pop et dangdut. Vous pouvez écouter nos émissions sur la fréquence de 9525 kHz ou en streaming de www.voic.id. En outre, vous pouvez également écouter nos émissions par l'application sur RRI Play. Pour l'édition de ce soir, nous vous présentons une chanteuse pop-rock de l'Indonésie, Anggun C. Sasmi. Voici sa première chanson intitulée Rêve. Bonne écoute. Chers auditeurs, c'était la chanson d'Angoun Tchessasmi intitulée Rêve. Si vous voulez envoyer une lettre par courrier électronique à french@voi.ca.id et nous vous invitons également à rejoindre La Voix de l'Indonésie sur Facebook, Voice of Indonesia, ou à nous suivre sur Twitter, @voiindonesia. Angoun est une chanteuse avec une puissance vocale qui appuie le genre des chansons rock. De plus, sa voix stridente atteint 3 octaves. Le potentiel d'Angoun de chanter des chansons de rock a dépassé les chanteurs préexistants à l'ère de 80 à 90 comme Reni Jayusman. En effet, Angoun est une dame rocker d'Indonésie. La chanson Rêve est une chanson qui prouve sa maturité vocale pour chanter des chansons rock. Cette chanson raconte un rêve de quelqu'un d'atteindre ses désirs. Angoun s'est avéré avoir un rêve de devenir célèbre non seulement dans le pays, mais aussi dans le monde entier. Le rêve doit être réalisé. Pour Angoun, le désir de gagner le rêve Go International n'est pas une chose qui est si facile à atteindre, mais elle doit travailler plus dur et avoir la lutte infatigable. Et enfin, elle réalise son rêve Go International qui est en ligne avec d'autres artistes du monde. Bon, chers auditeurs, écoutons maintenant la chanson suivante d'Angoun Tchessasmi intitulée Bonne écoute.
Lelahku berjalan menelusuri hari, menunggu sesuatu untuk melupakanmu. Wajah-wajah telah datang dan telah pergi, tetap ku sendiri dan merindukanmu. Ku ingin mengerti mengapa rasa itu wajahmu di bayang embun pagi, ku dengar suaramu di hembusan bayu. Mungkinkah kembali hati yang telah pergi? Mekarkah kembali bunga yang telah layu? Kan ku coba mengerti bahwa rasa itu bisa berganti. Yang aku tunggu masih ku cari, yang aku tunggu tuh hilangkan rasa sepi. Kan aku tunggu datangnya hari, ku kan menunggu saatnya jatuh cinta lagi.
Angoon, qui réalise avec succès son rêve de devenir une chanteuse internationale avec des chansons qui ont été publiées dans 33 pays, parrainée par le producteur français et a fait des tournées des spectacles dans divers pays européens. Bon, chers auditeurs, avant de terminer notre programme, voici la dernière chanson d'Angoon Tchessasmi. Bonne écoute et à bientôt!
Il y en a des différentes lésures, alors n'oubliez pas de nous rester fidèles. Donnez-nous des suggestions ou envoyez-nous de vos nouvelles, vous qui nous écoutez des quatre coins du monde. C'est la fin de notre émission en français de la voix de l'Indonésie. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence. À bientôt et au revoir.
Radio République Indonésia. Service international, la voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150 9525 et 11785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Envoyez vos critiques et vos suggestions à notre adresse email info@voi.co.id ou envoyez vos courriers à émission en français de la Voix d'Indonésie de la Radio République Indonésia, Jalan Medan Merdeka Barat 4S5, Jakarta, ou PO Box 1157, Jakarta, 2011, Indonésie. Vous pouvez rejoindre au Facebook Voice of Indonesia et Twitter Voice Indonesia. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.